Jeudi 20 octobre 2020, tout de suite, le journal en français de Studio Kalangou présenté par Raylette Soumana. Au sommaire de cette édition, la situation est tendue à Lagos au Nigeria où 12 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées au cours des manifestations contre les violences policières. Amnesty International appelle les autorités nigérianes à cesser l'utilisation de la force brutale contre les manifestants. Des inspections menées par le ministère de l'Intérieur ont révélé des manquements dans la gestion de certaines communes au Niger. Un atelier de renforcement de capacité a débuté cette semaine pour une vingtaine de municipalités des régions de Dosso et de Maradi. En fin de journal, vous suivrez le portrait de Rachida Bizo, une jeune activiste qui intervient dans la lutte contre la COVID-19 à travers des actions de proximité. Messieurs, dames, bonsoir. Au moins 12 personnes ont été tuées au Nigeria et des centaines d'autres blessées hier dans des manifestations de la population de Lagos. Et ce, contre les violences policières occasionnées par la brigade spéciale de répression des vols. Nous appelons les forces de sécurité à la retenue et à cesser d'utiliser la force brutale et meurtrière contre les manifestants, a déclaré Samira Doud, la directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, des propos recueillis par Habib Garba.
Au Nigeria, depuis 15 jours, des protestations ont lieu pour demander le démantèlement de cette unité de police. Les autorités ont répondu en annonçant que cette unité allait être dissoute. Au moins 12 personnes ont été tuées hier et des centaines sont blessées. On a pu observer que des caméras de surveillance ont été détruites, a priori pour empêcher que des preuves de cette répression soient disponibles. Nous appelons les autorités et les forces de sécurité à cesser d'utiliser la force brutale et meurtrière contre des manifestants qui ne font que protester, d'une part contre cette unité qui est tristement célèbre pour ses très nombreux crimes qu'elle a commis, et aussi pour que les personnes qui ont manifesté et protesté de manière pacifique et qui ont été arrêtées, que ces personnes-là soient libérées.
Fin hier après-midi à Niamey de la formation des médias sur la promotion du dialogue politique et le journalisme sensible aux conflits en période électorale organisée à Niamey par la Maison de la Presse avec le soutien financier du programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD. Pour les blogueurs bénéficiaires de la formation, cet atelier a été très instructif. Écoutons leur témoignage au micro de Moussa Hassan.
Beaucoup d'entre nous, c'est là que nous avions appris en tout cas les conséquences, les sanctions pénales qui sont attribuées en cas de violation de cette loi de la cybercriminalité. Nous avons appris sur la responsabilité du journalisme.
Ce que j'ai surtout aimé, c'est le fact-checking. Ça me permet de chercher la véracité des contenus avant de les propager sur le web. Pour moi, c'est un plus dans ma carrière, donc ça va me permettre d'être un peu plus indulgente dans le futur.
Le ministère de l'Intérieur a constaté une irrégularité dans la tenue des sessions des conseillers municipaux et la faible qualité des documents produits, souligne un membre du programme d'appui aux collectivités territoriales. Pour pallier ces lacunes, 27 secrétaires généraux de communes et préfectures des régions de Dosso et Maradi sont formés cette semaine par ce programme appuyé par la coopération suisse. Seydou Halidou explique au micro de Seydou Sankié, notre correspondant de Tessawa.
Cette formation, bien qu'elle intervient à la fin du mandat des maires, elle va aider ces secrétaires généraux qui, eux, assurent la permanence de l'administration des communes. Cette formation, c'est autour des questions de déontologie, comment amener les responsables municipaux et de l'État à revenir sur les règles que notre administration est en train de perdre, qui relèvent de leur mission quotidienne, notamment l'organisation et la tenue des sessions des conseils municipaux et régionaux. Un des constats que les inspections menées par le ministère de l'Intérieur a mis en évidence, c'est l'irrégularité de la tenue des sessions des conseils municipaux, mais également la faible qualité des documents qui sont produits, mais aussi la faiblesse dans la conservation de la documentation produite.
La Chambre de commerce et d'industrie s'est entretenue avec une soixantaine de femmes chefs d'entreprise hier à Niamey sur la connaissance de culture d'entreprise. Ainsi, ces femmes vont cultiver les bonnes pratiques au sein de leur entreprise pour être compétitives sur tous les plans, a souligné Mme Larabou Aissata Moussi, directrice de la formation professionnelle à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Des propos recueillis par Rukayato Abdraman.
C'est dans le but d'améliorer les activités des femmes pour un développement de leur entreprise, les encourager à innover et à être compétitifs sur le plan national et même international. Dans l'entreprise, quelle que soit la productivité, s'il n'y a pas un objectif commun de tous les employés de l'entreprise, il y aura des problèmes au niveau du développement de l'entreprise. On les exhorte à ce qu'ils auront appris aujourd'hui, que la culture d'entreprise a de mettre ça en place dans leur système de management de l'entreprise. Nous sommes en train de voir comment aller voir au sein de leur entreprise s'ils appliquent ce qu'ils ont appris à la Chambre de commerce.
Le Kangamou, le site de relogement des sinistrés des inondations situé dans le 5e arrondissement de Niamey, abrite déjà 660 ménages, soit plus de 4000 personnes selon les chiffres de l'agence nigérienne de presse ANP. Quelques habitants rencontrés sur place par notre reporter témoignent des conditions de leur hébergement. On les écoute au micro d'Olivier Assogbavi.
J'ai vécu ici l'année passée. Nous étions au nombre de 300. Il n'y avait pas tout ce confort. Cette année, on a vraiment suffisamment de place. Les enfants, madame et moi, on a où s'installer quand même. Et d'autre part, il y a l'électricité que nous venons d'avoir cette année. Depuis notre arrivée, je n'ai pas vu quelqu'un qui a été piqué par un scorpion. Alors que l'année passée, on n'a même pas passé la nuit quand il y a eu plus de 7 qui ont été évacués.
On n'a pas à manger, on est là. Tout ça là, tu vois, ça cause des problèmes. D'autre côté, on peut en avoir des jours où on nous amène de quoi faire la cuisine. Et maintenant, ce n'est pas le cas. Donc il y a une grande différence.
Comment vous faites alors pour manger?
Mais avec les voisins, on profite. Chacun fait son plat. Là, si la personne est sortie, elle peut gagner 500 et 1000 francs.
À Gaya, dans la région de Dosso, l'inscription à l'école primaire des élèves en classe d'initiation, communément appelée CI, tarde. L'exemple frappant est celui de l'école cité Coton Gaya 2, qui enregistre à ce jour une dizaine d'écoliers inscrits sur une quarantaine d'élèves prévus. Bawa Chipkaou, directeur de l'école, énumère quelques hypothèses qui pourraient expliquer cette situation.
L'inscription des élèves du CI a commencé, mais timidement. Sur 42 nouveaux inscrits prévus, nous avons seulement recruté une dizaine d'enfants. Au CI, si un parent tarde à amener son enfant, si par exemple on prend un exemple, un mois ou moins d'un mois même de retard, l'enfant qui sera recruté tard, il ne va pas rattraper ses camarades. Ça va jouer sur son apprentissage. Les parents, la première hypothèse que je peux avancer peut-être, beaucoup d'entre eux sont même en bourse en train d'attendre finir la récolte. La deuxième raison aussi, même si les parents logent à côté de l'école, alors ils hésitent. Pourquoi hésiter?
Des propos recueillis par notre correspondant Fadel Alou. Hors du Niger à présent, le village de Farabougou dans la région de Ségou au Mali reste assiégé par les présumés terroristes qui l'ont envahi depuis 2 semaines. Selon des sources jointes sur place hier matin, les populations commencent à manquer de nourriture et beaucoup sont tombés malades. Les habitants de cette localité demandent aux autorités maliennes d'intervenir pour abréger leur souffrance. Écoutons donc la réaction de cet habitant de Farabougou ayant requis l'anonymat. Il est joint au téléphone par nos confrères de studio Tamani.
La population souffre. À l'heure où je vous parle, la plupart des familles aujourd'hui n'ont même pas à manger. Et il y en a qui sont tombés malades aussi. Nous n'avons même pas de médicaments pour les faire soigner. On ne sait même pas vraiment à quelle heure la situation va rentrer dans l'ordre. Ces gens ont dit qu'ils ont déposé les armes, qu'ils veulent négocier. Alors qu'ils ne veulent pas négocier, on ne parvient pas à leur faire confiance. Aujourd'hui, nous avons besoin que le village soit libéré par les djihadistes, que l'armée revienne dans le village de Farabougou pour aider les villageois. Toute la zone a été évacuée.
Vraiment, toute la zone a été évacuée. De la culture dans cette édition, une ferme au Sahel, expérience au Niger en pays Touareg, c'est le titre d'un nouveau livre écrit par le député national Ibrahim Mohamed. Dans cet ouvrage riche en images, l'auteur partage son expérience d'une transition du nomadisme traditionnel à la sédentarisation dans le contexte d'un modernisme envahissant. Ibrahim Mohamed est au micro de Michel Deji.
L'ethnie Touareg, c'est vrai qu'elle est d'origine nomade, comme l'ethnie Peul, comme l'ethnie arabe, comme l'ethnie Toubou. Mais je ne connais aucun nomade qui est venu se sédentariser, qui a réussi, qui voulait rentrer dans la vie de nomadisme. Donc ça veut dire que cette vie nomadisme, elle est quand même très difficile, très austère, parce qu'elle ne vous permet pas d'accéder à l'école, d'accéder à la santé, d'accéder aux services de base. Donc c'est vraiment une vie qui est à part, qui n'est pas en compatibilité avec le modernisme que nous vivons aujourd'hui. Donc ce que j'attends, c'est que cette petite expérience que j'ai vécue puisse servir à d'autres pour tenter leur chance.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
À présent, la partie magazine de cette édition. Au Niger, les jeunes ont joué un rôle très important dans la riposte contre la pandémie de la COVID-19. Cette jeunesse a su prendre les devants en dépit de la psychose évidente qui a prévalu dans le pays. C'est le cas de Rachida Bizo, la secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes, qui a mené plusieurs actions de sensibilisation en faveur des enfants talibés. Écoutons ce reportage de Habibou Garba.
Un clair de taille moyenne du haut de ses 22 ans, Rachida Bizo fait de la sensibilisation sur la COVID-19 son cheval de bataille, surtout en faveur des plus jeunes. Tout a commencé d'abord sur les réseaux sociaux, les webinaires, puis le partage des affiches sur le respect des gestes barrières. Rachida est une animatrice du Conseil national de la jeunesse et de la campagne Mourir Matassa, une campagne de sensibilisation des jeunes en ligne de l'UNICEF. Étant la chargée de formation et de l'effectivité des scouts, Rachida a participé activement dans plus de 110 quartiers de Niamey à la sensibilisation des enfants pour lutter contre le coronavirus et c'est à travers des comités de veille avec le soutien de l'UNICEF. Les enfants talibés et la cible principale de Rachida Bizo qui, selon notre héroïne, sont laissés à eux-mêmes.
Avec les enfants talibés, il y a eu confection de bavettes, surtout vers l'aéroport. Nous avons confectionné ces bavettes-là et à les distribuer aux enfants les plus démunis. Parce que nous avons vu dans la ville, il y a les enfants qui sont au niveau des feux de stop, il y a les enfants qui sont mendiants dans la ville, il y a les enfants talibés aussi. Nous avons voulu apporter beaucoup plus d'aide, mais malheureusement, nous manquons de moyens.
Son passage dans les quartiers aéroports a été très apprécié par les enfants talibés et leurs maîtres qui avaient une toute autre idée d'éventuel traitement de la maladie. Alpha Djibo Bodo, un maître coranique.
Avant même que Rachida arrive chez nous, nous avons estimé que dans la sourate Al-Baqara, il y a un morceau de chevelure qui peut guérir la COVID-19. Nous nous sommes mis à reproduire la sourate sur nos ardoises et laver le contenu pour boire et faire boire nos talibés et même la population. Rachida est venue, elle nous a expliqué toutes les mesures barrières à prendre pour éviter la contamination. J'ai compris, elle nous a distribué des masques. Vraiment, son arrivée nous a éclairés.
De par le rôle que joue la jeune Rachida de la prévention de lutte contre la pandémie, le coordinateur de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONID estime qu'elle est une actrice humanitaire à part entière. Moussa Sidikou.
C'est un bel exemple d'engagement, d'actrice humanitaire, mais aussi d'une véritable combattant en sensibilisant les jeunes Sur les mesures préventives à cette maladie-là, nous avons vu Rachida faire des collectes à titre privé pour effectivement soutenir une frange de la jeunesse assez vulnérable.
Comme disait la secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes, il nous faut prouver que nous pouvons tenir face aux problèmes que traverse notre pays.
Point final de ce journal en français de Studio Kalangou. À suivre tout de suite le forum du Studio Kalangou. Au revoir.